Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Joseph Tandy et je suis assistant pasteur à l'église Saint-Lazare, une implantation d'église dans le 9e arrondissement de Paris, comme le nom l'indique, à côté de la gare Saint-Lazare. Et je suis chargé de vous apporter les salutations de notre église et aussi les remerciements à plusieurs sujets, parce que vous étiez au courant, je ne sais pas, mais cela fait un mois que nous utilisons vos locaux le samedi après-midi pour nous réunir pour notre culte. En temps normal, nous nous réunissons dans une salle de cinéma et nous y sommes de retour ce matin, mais seulement depuis ce matin. Donc ça faisait un mois que nous étions ici dans ce bâtiment le samedi après-midi. Donc merci pour cela. Ensuite, un grand merci parce que, autre sujet que vous ignoriez peut-être, mais pendant un ou deux ans, j'avais le privilège de pouvoir travailler dans le secrétariat ici, dans ce bâtiment, puisque à l'église Saint-Lazare, nous sommes une jeune église, nous n'avons pas nos propres locaux, donc cela fait déjà deux fois merci. Et puis on a aussi eu d'autres échanges à travers notre partenariat dans l'église, dans l'association des églises évangéliques baptistes de langue française. Donc un grand merci à vous pour votre solidarité et votre accueil, et puis c'est une grande joie pour moi de pouvoir être parmi vous ce matin. Je vous pose de lire ce matin dans la première lettre de Pierre au chapitre 4 que je vais lire et que je vais également afficher, je crois, non peut-être pas. 1 Pierre chapitre 4, et ce serait vraiment une très bonne chose si on pouvait tous avoir ce texte ouvert sous les yeux pendant notre temps de méditation ce matin. Comme cela, on a l'habitude de dire à l'église Saint-Lazare, c'est un moyen de vérifier que ce que je vais dire vient effectivement de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste nos propres idées que nous avons inventées. Donc merci si vous avez la possibilité de garder ce texte ouvert devant vos yeux. Et si vous suivez sur un téléphone portable, on peut peut-être mettre sur mode avion pour ne pas être déconcentré par d'autres choses. 1 Pierre chapitre 4, et je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 11. 1 Pierre 4, versets 1 à 11. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant, en effet, d'avoir, dans le passé, accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à prier avant de commencer notre méditation. Père Céleste, nous venons de le lire, que si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Veuillez nous accorder cela, de vivre cela maintenant ce matin, et dispose notre cœur à ton écoute. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message ce matin, c'est « Vivre à la lumière de la fin ». Et voici notre question ce matin. Vivre pour Dieu, même quand c'est difficile, d'accord, mais comment y arriver et comment tenir? Vivre en tant que chrétien, en sachant que ce sera difficile, d'accord, mais comment? Comment le faire et comment tenir? Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu les derniers mois. On a dû faire face aux mêmes difficultés que tout le monde. Les couvre-feux, les confinements, les déconfinements, les redéconfinements, les reconfinements, les redéconfinements, et ainsi de suite. Les mêmes difficultés que tout le monde. Mais en plus de cela, c'est possible qu'en méditant sur cette première lettre de Pierre, comme il me semble que vous l'avez fait pendant un petit moment, c'est possible que vous ayez trouvé certaines des choses que Dieu enseigne dans cette lettre, difficiles à entendre aussi. Je sais que c'était notre expérience quand nous avons médité sur cette lettre à l'automne à l'église Saint-Lazare, certaines choses qui ne sont pas faciles à entendre. Petit récapitulatif de ce que vous avez peut-être vu ou si on a besoin de, qu'on nous rafraîchisse la mémoire. On entend un appel à rechercher un comportement exemplaire afin que la seule chose qu'on puisse nous reprocher soit notre attachement à la bonne nouvelle de Jésus. Pas toujours évident. Mais moins évident encore, Pierre parle dans cette lettre du fait de souffrir parce qu'on est chrétien. Même si on a été irréprochable, parfois le simple fait d'avoir des convictions chrétiennes va nous attirer la souffrance. Mais je n'ai pas envie de souffrir et je préfère de loin garder le profil bas. Et enfin, Pierre dit que si on souffre injustement, soit parce qu'on est chrétien, soit parce que le monde est simplement parfois injuste, on doit rendre le bien pour le mal. Encore plus dur. Le désir de régler nos comptes quand on vit une injustice peut être très fort. Mais Pierre nous invite à vaincre le mal par le bien. Vraiment pas évident. Et peut-être qu'en entendant tout cela, on s'est dit, bah, c'est très bien, être exemplaire, rester fidèle à Dieu si on souffre, rendre le bien pour le mal, c'est très beau, c'est très beau en théorie. Ou c'est très beau pour les héros chrétiens de l'histoire, Martin Luther, Athanase, Martin Luther King, mais pour moi, pas sûr que ce soit dans mes cordes. Vivre pour Dieu, même quand c'est difficile, d'accord, mais comment y arriver et comment tenir? Et les premiers lecteurs de la première lettre de Pierre devaient se poser la même question. On arrive dans ce texte à la conclusion de la section centrale de cette lettre qui parle de comment vivre parmi des personnes qui ne partagent pas notre foi et qui parfois y sont hostiles. Et voici un résumé du message de cette section centrale de cette lettre, un peu l'introduction de cette partie, le cœur de la lettre. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas le vrai Dieu, ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. Pierre écrit à des chrétiens qui étaient calomniés à cause de leur foi et qui étaient sous pression de se fondre dans la masse. Et malgré cela, il les appelle à continuer à vivre pour Dieu. Et on imagine leur question. Vivre pour Dieu, très bien. Mais vivre pour Dieu et souffrir, comment? Comment y arriver et comment tenir? Il y a un déclic dont on a besoin, et ce passage nous le présente. En un mot, dans ce passage, Pierre nous invite à vérifier que notre montre soit bien réglée, c'est-à-dire à comprendre à quel moment de l'histoire on vit. Dans quel timing on s'inscrit. Et on peut le vérifier dans le texte. Regardez les versets 2 Pierre parle de comment vivre pendant le temps qui nous reste. Au verset 3, il s'agit de ne plus vivre comme on le faisait dans le passé. Au verset 7, la fin de toutes choses est proche. Pour tenir en tant que chrétien dans un monde où cela peut être difficile, on doit avoir pour état d'esprit le fait de vivre aujourd'hui à la lumière de la fin. Pour tenir en tant que chrétien, quand c'est difficile, on doit avoir pour état d'esprit de vivre aujourd'hui à la lumière de la fin. Nous sommes à la dernière page de l'histoire avant que Jésus revienne, et cela change tout. Trois points à suivre ce matin. Vivre pour Dieu même quand c'est difficile. Mais comment y arriver? Ben, en comprenant que le temps des passions humaines est passé. Le temps de la justice est à venir et le temps de servir est maintenant. Verset 1, je relis ainsi donc. Puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Alors je me demande quels seraient pour vous les moments où vous avez compris que vous ne pouviez plus voir votre vie comme avant. Peut-être au début des études supérieures, je suis libre, super, et par contre je vais peut-être devoir apprendre à faire à manger, parce que sinon ça sera pas de pesto pour le reste de ma vie. Un tournant important. Ou peut-être au moment d'avoir des enfants, ah j'ai compris, la prochaine fois que je dormirai, ce sera peut-être dans 10 ans. Je ne peux plus voir les choses comme avant. Bah, dans ce passage, on voit que si on est chrétien, on ne peut plus voir notre vie comme avant, ou comme le font ceux et celles qui ne sont pas encore chrétiens. Un tournant a eu lieu. En choisissant de suivre Jésus, on a fait un virage à 180 degrés, on a changé de direction, on est sur une nouvelle trajectoire qui parfois ira dans le sens opposé des personnes qui nous entourent. Pierre dit, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Alors, de quoi parle-t-il? Quelle pensée? Dans le chapitre précédent, que vous avez médité il y a quelques semaines avec Jean-Paul, vous avez vu, normalement, que quelque chose qui nous pousse à être courageux en tant que chrétien, c'est le fait de savoir que même si nous souffrons aujourd'hui, nous sommes du côté des vainqueurs. Et Pierre avait pris les exemples de Jésus et de Noé pour le démontrer. Jésus a souffert du fait de son obéissance à Dieu, mais ensuite, il s'est ressuscité et aujourd'hui, il règne victorieux. Noé a souffert du fait de son obéissance à Dieu, mais ensuite, il est monté dans l'arche et il a été délivré. Et à chaque fois, il y avait le même schéma. Souffrance pour le bien d'abord, victoire par la suite. Souffrance pour le bien d'abord, victoire par la suite. Et Pierre nous invite à entrer dans le même état d'esprit. Souffrance pour le bien d'abord, victoire par la suite. Et il explique, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste. Autrement dit, quand on a cru en Jésus, un tournant a eu lieu. On s'est aligné avec lui, on a accepté d'aller dans le même sens que lui, même si cela risque de nous coûter, et par le même coup, on a rompu avec toute façon de vivre qui déplaît à Dieu. Et c'est pourquoi il poursuit en disant, c'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. C'est comme si on était sur une route où tout le monde roulait à contresens. Il va y avoir des amendes pour tout le monde. Mais avant que les gendarmes arrivent, on a compris qu'il fallait faire demi-tour. Et on s'est mis dans le bon sens. on a commencé à rouler dans la direction opposée, quitte à composer avec toutes les voitures qui arrivaient en face. Un tournant a eu lieu et maintenant on doit aller dans le même sens en comprenant que même si c'est dur, ça reste le bon choix. Et c'est un peu ce que Pierre veut nous dire ici. Pierre dit qu'on en a fini avec le péché. Expression forte. On en a fini avec le péché. Non pas qu'on ne pêche plus jamais, c'est manifestement faux, mais plutôt qu'il y a eu une rupture. On a changé de sens, on est sur une nouvelle trajectoire. Souffrance pour le bien d'abord, victoire par la suite. Et il nous rappelle ces choses parce qu'il sait à quel point c'est tentant de suivre la foule. Surtout quand la foule risque de se retourner contre tous ceux qui ne vont pas dans le même sens. J'imagine qu'on s'est tous sentis tiraillés ou attirés par des choses peut-être qui faisaient partie de notre vie avant d'être chrétien, ou que font les personnes qu'on côtoie. Peut-être que vous êtes au collège ou au lycée ou que vous êtes étudiant et vous êtes à un stade de la vie où la pression de vous conformer est forte. Peut-être au niveau de la quantité d'alcool consommée dans les soirées ou dans les relations garçon-fille. Ou au niveau de la pression de projeter une certaine image de soi sur les réseaux sociaux. Et ça peut être très difficile de ne pas suivre le mouvement quand on sait que ça risque de nous coûter. Des personnes peuvent parler méchamment de nous ou nous traiter de rabat-joie. Mais prenez la pleine mesure du tournant qui a eu lieu quand on a choisi de suivre Jésus. On a accepté d'aller dans le même sens que lui. Vivre d'une manière qui plaît à Dieu et vivre d'une manière qui parfois va déplaire aux autres. Et même si nous ne sommes plus collégiens, lycéens, étudiants, la pression est la même, elle est juste plus subtile. La plus grande lutte que j'ai eue dans mon ancien travail, j'étais journaliste pendant quelques années, le commérage. Ne pas parler dans le dos des autres, en particulier quand on trouvait que leur travail n'était pas au niveau, difficile, parce que tout le monde le voyait comme tout à fait normal. Intéressant que Pierre cite l'idolâtrie dans sa liste. On peut être bien sous tout rapport, tout en s'inclinant devant les mêmes idoles que nos contemporains. L'argent, la réputation, le confort, etc. Mais Pierre dit, c'est fini tout cela. On a besoin d'un nouvel état d'esprit, l'obéissance d'abord, même si elle est coûteuse, victoire par la suite. Comment vivre pour Dieu quand c'est difficile? D'abord en réglant bien notre montre. Le temps des passions humaines est passé. Et ensuite, le temps de la justice est à venir. Verset 4. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Oh, d'accord. Je vois que je dois vivre différemment. Mais comment tenir quand j'ai l'impression de me faire tirer dessus par les personnes qui m'entourent? Comment continuer quand la pression devient vraiment forte? Trop. Pourquoi accepter de me démarquer si ça va me coûter? Pourquoi ça vaut la peine? La réponse, c'est parce qu'il y aura un jugement. Un jour, Dieu rendra la justice contre ceux qui auront persisté dans l'opposition à lui et par conséquent à son peuple et en faveur des siens. Si c'est dur de vivre pour Dieu aujourd'hui, un jour ce sera évident que c'était le bon choix à faire. Et Pierre parle d'abord de ce qu'on peut vivre aujourd'hui de la part de ceux qui nous entourent. On vient de le lire, ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils vous calomnient. Je me souviens d'un chrétien quand j'étais au lycée, dont on savait quelles étaient ses convictions en matière de concernant la sexualité. Et disons simplement que beaucoup de personnes n'ont pas été tendres avec lui. Peut-être que vous pouvez vous identifier à cela. Il est borné, il est homophobe, c'est un fondamentaliste. Des choses qui sont difficiles à entendre quand on a 16 ans. Et peut-être que vous avez vécu des expériences comparables. Si vous êtes lycéen ou étudiant, des soirées où vous êtes le seul à ne pas finir ivre ou dans le lit de quelqu'un d'autre. Et on ne comprend pas pourquoi vous ne suivez pas le mouvement. Ou peut-être que vous avez déjà été dans une situation où vous avez dit ce que vous pensez concernant le mariage, que c'est entre un homme et une femme pour la vie. Insupportable à entendre pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. Et si on affirme ces convictions, même si ce n'est pas la première chose qu'on met en avant, parce que la première chose qu'on veut mettre en avant, c'est Jésus, si on affirme ces convictions, au mieux on pourra être vu comme étrange, et parfois on essuiera des paroles méchantes. Mais Pierre dit que cela a toujours été le cas, on a toujours traité les chrétiens de cette manière, mais cela vaut la peine d'aller à contre-courant, parce qu'un jour, les opposants rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Dieu va juger toute personne qui a jamais vécu. Ceux qui aujourd'hui se croient et sont perçus comme justifiés en s'opposant à ce que Dieu veut, seront déclarés par le juge suprême comme ayant été en tort. Mais ceux qui aujourd'hui osent vivre selon des convictions impopulaires, mais conformes à ce que Dieu demande, seront déclarés comme ayant fait le bon choix et récompensés. Et c'est ce qui explique un verset qui, à la première lecture, a l'air vraiment bizarre. Verset 6. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alors, c'est quoi cette histoire de mort évangélisée? Est-ce que cela parle de ce que l'Église catholique romaine appelle le purgatoire? Est-ce que c'est l'idée qu'après la mort, il y a une sorte de seconde chance d'accéder à la vie éternelle si on n'avait pas réussi à rentrer la première fois? Le problème avec cela, c'est que ça contredit plusieurs autres textes dans la Bible. Et il me semble qu'il y a une solution beaucoup plus simple. Pierre parle de ceux qui ont reçu la bonne nouvelle de Jésus et qui sont ensuite morts. Mes grands-parents, qui étaient chrétiens, mais qui sont aujourd'hui décédés, est-ce que c'était en vain qu'ils ont cru en Jésus? Ben non, parce qu'un jour Jésus reviendra, les morts ressusciteront et il y aura un jugement, la condamnation pour ceux qui auront tenu Dieu à distance toute leur vie et la vie éternelle pour ceux qui avaient accueilli la bonne nouvelle. Et cela, c'est une grande source de réconfort quand être chrétien, c'est difficile. Un chrétien au Pakistan, persécuté pour sa foi, est-ce un perdant? Si on ne tient pas compte, si on ne tient compte que de cette vie, oui, c'est un perdant. Il aurait pu avoir une vie beaucoup plus facile en renonçant à sa foi. Un chrétien à Paris, moqué ou calomnié à cause de sa foi, est-ce un perdant? Si on ne tient pas compte du jugement à venir, oui, c'est un perdant. Il aurait pu avoir une vie bien plus facile s'il n'avait pas été chrétien. Et peut-être que c'est ce que certains d'entre nous, on vit en ce moment, et on trouve que c'est lourd. Mais Pierre dit qu'après avoir été jugé selon les hommes quant à la chair, c'est-à-dire qu'après avoir été injustement traité par les autres dans cette vie, ceux qui ont choisi de suivre Jésus vivront selon Dieu quant à l'Esprit. C'est-à-dire qu'au jugement final, ils recevront l'approbation, la récompense et la vie de la part du Maître. On peut être traité de loser, perdant, toute notre vie, à la fin, Dieu rendra la justice. Et c'est une grande source de réconfort quand être chrétien, c'est difficile. Écoutez le commentateur Samuel Benetro dans son livre sur la première lettre de Pierre. Le langage demande de s'accrocher un petit peu, mais le propos est très perspicace. Il dit ceci. Au plan de l'existence visible, et pour des observateurs superficiels, les croyants sont des perdants et des condamnés non réhabilités. Autrement dit, aujourd'hui, les chrétiens ont l'air, aux yeux de beaucoup, d'être des losers, des perdants. Ils ont des convictions étranges et en plus, ils souffrent pour ces convictions. Mais sur un autre plan, celui de l'authentique, du permanent et du lumineux, ils sont appelés, il ne faut pas en douter, à partager la pleine victoire de leur Seigneur, victoire de la vie sur la mort. Ce sont des gagnants. Mais pourquoi des gagnants? Parce que Dieu rendra la justice. Le temps de la justice est à venir. Et si vous êtes comme moi, on trouve que c'est souvent difficile d'aller à contre-courant de notre société et que c'est difficile parfois de partager des convictions que de plus en plus de personnes perçoivent comme étant étranges, voire condamnables. De plus en plus en Europe, certaines convictions chrétiennes sont perçues de cette façon. Et si vous êtes comme moi, on préfère de loin être respecté. Mais un jour, quelles qu'aient été les accusations ou les moqueries que nous avons pu subir, Dieu mettra toutes choses au clair. Le temps des passions humaines est passé, le temps de la justice est à venir. Et enfin, le temps de servir est maintenant. Verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. J'ai dit au début que Pierre veut que notre montre soit bien réglée, qu'on comprenne à quel moment de l'histoire on vit. Et on a vu que le temps pour vivre en suivant toutes nos impulsions est derrière nous, que le temps où Dieu fera justice est devant nous, mais maintenant, comment vivre maintenant? Et encore une fois, c'est le timing, le calendrier de Dieu qui est déterminant. Pierre dit « la fin de toute chose est proche ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Pierre a écrit il y a 2000 ans, cela fait un bout de temps, et la fin, le retour de Jésus, n'est toujours pas venu. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin de toute chose est proche? Parfois, on a pu entendre parler de personnes qui ont annoncé que la fin du monde était imminente et qui ont donné une date. Les témoins de Jéhovah, par exemple, l'ont essayé plusieurs fois, et j'imagine qu'à chaque fois, c'était une opération de communication un peu compliquée pour expliquer pourquoi ils s'étaient trompés. Qu'est-ce que cela veut dire, la fin de toute chose est proche? Simplement qu'il n'y a plus rien d'autre dans l'agenda de Dieu avant le retour de Jésus. Le Christ est déjà venu, comme promis, il est déjà mort, comme promis, il a déjà été ressuscité, comme promis, l'Esprit a déjà été envoyé, comme promis, l'Église a été rassemblée, comme promis, et maintenant, Jésus peut revenir aujourd'hui, tout comme il peut revenir dans 1000 ans. Il est à la porte et il peut entrer quand il veut. Et si cela est vrai, si Jésus va revenir, mais si tant qu'il n'est pas revenu, on découvre que c'est parfois difficile d'être chrétien, cela jette une nouvelle lumière sur nos priorités aujourd'hui. Ça veut dire que le temps de se servir les uns les autres, c'est maintenant. Parce que quand on est sous pression, on a besoin de se serrer les coudes. Et c'est pourquoi Pierre nous demande de faire trois choses. Prier, aimer et servir. D'abord, prier. La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Il nous demande d'être lucides. Jésus va revenir. Prions donc pour nous-mêmes et pour les autres à la lumière de cela. Père Céleste, aide ce jeune qui est le seul chrétien dans sa classe à rester attaché à toi. Père Céleste, aide cette personne pour qui c'est compliqué au travail à se soumettre à son chef difficile. Père, encourage cette personne qui vit un moment douloureux dans sa famille et qui s'oppose à son choix de te suivre. J'utilise une application smartphone pour organiser ma vie de prière parce que sinon je ne serais pas suffisamment discipliné pour prier. Et sur cette application, j'ai une liste de tous les membres de l'église Saint-Lazare et je prie pour plusieurs d'entre eux chaque jour. J'imagine qu'on est plusieurs à faire le même genre de choses. Mais demandons-nous, est-ce que nos prières, les uns pour les autres, reflètent le fait que nous vivons à la lumière du retour de Jésus? Est-ce qu'on prie pour la persévérance, la croissance et la joie dans la foi des autres? Priez, ensuite, aimez. Et j'aime beaucoup le réalisme de Pierre. Il sait qu'on a besoin de nous soutenir les uns les autres. Il sait aussi combien ça peut être difficile de nous supporter les uns les autres. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Non pas qu'en aimant, je gagne le pardon de mes fautes, mais plutôt que l'amour me fait passer outre les fautes des autres. Si vous m'aimez, bah vous allez faire abstraction de mes très nombreuses fautes. Et c'est ce dont on a besoin quand la vie chrétienne est difficile, des personnes qui seront là pour nous malgré nos défauts. Exercer l'hospitalité sans murmurer. J'aime beaucoup la précision, sans murmurer. L'Église est faite de personnes rassemblées par l'essentiel, l'attachement à Jésus, mais qui peuvent être très différentes les unes des autres. Très tentant parfois de se dire « encore lui » ou « encore elle ». Qui veut venir chez moi? Ah Seigneur, pitié. Mais dans un monde où cela peut être dur de vivre pour Jésus, nous avons besoin de ces moments où nous sommes accueillis. Quand j'étais étudiant et que je vivais dans une résidence universitaire où il n'y avait pas beaucoup d'autres chrétiens, qu'est-ce que j'étais reconnaissant pour l'hospitalité de personnes de mon église et pour le seul repas à peu près correct de la semaine. Difficile en ce moment d'exercer l'hospitalité vu la situation sanitaire, mais on peut être créatif. Est-ce que je peux accueillir des personnes dans mon salon via Zoom? Juste une idée. Prier, aimer et enfin servir. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Il n'y a pas de passager dans une église. Nous avons tous des dons qui ne sont pas pour nous, mais pour les autres. Utilisons-les. Je ne sais pas quels sont les besoins de l'église du Tabernacle en ce moment, mais si votre église est comme la nôtre à Saint-Lazare, j'imagine que les besoins sont nombreux. Pourquoi ne pas vous renseigner sur les possibilités de servir et chercher à cultiver les dons que Dieu vous a donnés? Si vous avez un don pour expliquer la Bible aux autres, par exemple, est-ce que vous le cultivez pour que quand vous parlez, dans votre groupe d'études bibliques, par exemple, ou simplement de façon informelle, ce soit selon les oracles de Dieu, comme le dit Pierre. C'est-à-dire ce que la Bible dit vraiment, plutôt que simplement des idées reçues. Dieu nous a donné des dons, qui sont des outils pour aider les autres à tenir dans un monde où c'est parfois dur d'être chrétien. Vivre pour Dieu quand c'est difficile, ok, mais comment y arriver et comment tenir? Eh bien, nous avons besoin de bien régler notre montre. Nous sommes à la dernière page de l'histoire. Le temps des passions humaines est passé. Le temps de la justice est à venir et le temps de servir, c'est maintenant. Et nous sommes invités à adopter un nouvel état d'esprit. Être chrétien, c'est vivre aujourd'hui à la lumière du retour de Jésus. C'est voir toute notre vie à travers cette optique-là et nous organiser en fonction. Alors peut-être que cela ne nous paraît pas naturel. Peut-être que cela ne nous est jamais arrivé à l'idée de réfléchir de cette manière, voir ma vie maintenant à la lumière du retour de Jésus. Mais n'oublions pas que s'organiser aujourd'hui en fonction d'une échéance future, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Quand le gouvernement a annoncé qu'il allait avoir le confinement, on a tous pris nos dispositions. Certains sont peut-être partis à la campagne, d'autres ont choisi de peut-être faire une colocation pour ne pas être seuls, d'autres encore ont pris un abonnement Netflix. On s'organise dans le présent à la lumière de l'échéance future. Et Pierre nous invite simplement à faire la même chose vis-à-vis du retour de Jésus. Vivre aujourd'hui à la lumière de la fin. Et dans une culture de l'instantanéité, où on veut tout avoir maintenant, que ce soit notre livraison Amazon ou notre commande Deliveroo, c'est difficile parce que ça nous demande d'avoir une vision à long terme. Et c'est plus difficile encore quand l'idée d'une fin pour le monde tel qu'il est a été largement tournée en direction de notre société. Mais sans cette optique-là, impossible de tenir en tant que chrétien. Surtout quand la pression monte. Mais avec cette optique, on sait que ça vaut la peine d'aller à contre-courant quand il faut. On sait que celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu et personne d'autre. Et on est lucide sur nos priorités aujourd'hui. Peut-être que pour vous, c'est difficile actuellement d'être chrétien. Et je ne veux surtout pas donner l'impression qu'on peut faire disparaître toutes les difficultés d'un coup de baguette magique. Mais même si c'est difficile de vivre pour Jésus aujourd'hui, même si on se sent minoritaire, parfois méprisé, un jour tout le monde reconnaîtra avec Pierre que c'est à Jésus qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et que se mettre de son côté, c'était bien le bon choix à faire. Le temps des passions humaines est passé, le temps de la justice est à venir, et le temps de servir, c'est maintenant. Je vous invite à prier. Dieu et Père, nous voulons te remercier pour cette espérance que tu mets devant nos yeux. Nous voulons te remercier pour Jésus, celui qui a souffert, mais que tu as ensuite ressuscité et qui est monté à la plus haute place, qui règne et qui va revenir. Et merci parce que c'est la perspective de son retour glorieux qui fait qu'on peut vivre pour toi, se démarquer pour toi, même faire des choix coûteux pour toi aujourd'hui. Accorde-nous d'adopter cette pensée-là. Tu sais à quel point elle ne nous est pas naturelle, mais tu sais aussi que c'est celle dont nous avons besoin pour pouvoir tenir dans un monde parfois hostile. Merci Père Céleste pour ta grâce par laquelle tu nous as pardonné et pour cette grâce qui nous accorde aujourd'hui cette espérance d'être avec toi dans la gloire de ta nouvelle création. Au nom de Jésus. Amen.